Merci Thierry, ben, c'était très éclairant parce qu'en fin de compte, on se rend compte par rapport à ce que tu as dit, à l'objet politique transfrontalier, à sa complexité, on se rend compte qu'au départ, rien n'est gagné, mais que finalement, tu esquisses cet exemple sur la frontière de Dell, quelque chose d'intelligent, qui à mon avis sera certainement peu coûteux, et on peut. Au vu de tout ce qui a été discuté sur la lourdeur, la lenteur, ça coûte très cher et on comprend bien que techniquement, dans certains cas, c'est tellement long à mettre en œuvre que les niveaux de décision ne sont pas locaux alors que les acteurs politiques locaux attendent quelque chose. Bref, tout cet entrelac d'attentisme, de possibilité de passer à l'action ou non, qui ralentit, ça peut être surmonté. Encore une fois, moi, ça ne me surprend pas tellement, mais c'est peut-être aussi un parti pris, un positionnement personnel, mais du terrain et de très petites structures qui, à moindre coût, ont l'intelligence, finalement, de tricoter des choses quasiment sans moyens. Et c'est peut-être alors c'est pas la conclusion, mais en forme malgré tout d'ouverture, au-delà de tout ce qui a été présenté, une des solutions possibles de regarder encore une fois au microscope quelles sont les ressources au niveau de ces territoires en termes d'acteurs, avec pour moi derrière toujours cette idée de comment est-ce qu'on fait ensemble et quelle identité transfrontalière on tisse, parce que finalement. Si je reviens en arrière dans mes notes, et c'était Pierre Vaufré qui ne l'a pas dit comme tel, mais je l'ai entrevu dans ses notes, la question de la citoyenneté transfrontalière, finalement. C'est ça qui va lier par-dessus toutes ces expériences d'aménagement. C'est la citoyenneté transfrontalière qui, à mon sens, peut créer les conditions pour que cette économie présentielle, résidentielle, partagée, et non pas en vis-à-vis et en concurrence, puisse s'exprimer via une mobilité performante qui fera qu'on passera d'un pays à l'autre rapidement et sur un système de cadencement qui fait que finalement, on n'a aucun effort à fournir pour aller dans le pays voisin. C'est à ce prix-là, j'ai l'impression, que cette économie, elle peut se réaliser en transfrontalier. Voilà, ce n'était pas une conclusion, mais c'était une forme de transition vers des questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions? J'aimerais bien qu'il y en ait, parce que cette journée, c'était aussi un petit laboratoire. On met en lien plein de gens différents pour discuter d'un sujet qui n'est pas simple du tout à manipuler. Et la preuve, c'est qu'il n'est pas souvent discuté dans ces conditions-là. Donc, allez-y. Alors, c'est moi qui vais passer. Avec des questions.
Bien, alors je risque d'être un petit peu long parce que je voudrais développer un tout petit peu à partir des différentes présentations. Donc, moi je ne suis pas du tout du coin, donc je découvre un petit peu l'arc jurassien et les descriptions que vous en faites. Alors, il y a certainement un effet qui est lié au statut finalement que vous occupez les uns et les autres. Premier constat, disons, c'est que la plupart des approches sont quand même essentiellement institutionnelles. Et peut-être que justement la dernière intervention et cet exemple à la gare de Dell est peut-être quelque chose, enfin en tout cas qui m'a intéressé, parce que justement peut-être on sortait, et ça a été souligné par Alexandre Moine, on sortait peut-être un tout petit peu des acteurs institutionnels tels qu'ils nous étaient présentés jusqu'alors. Alors pourquoi ça m'intéressait? Parce que en fait, c'est peut-être un peu iconoclaste, hein, ce que je vais dire, mais moi, l'impression que j'ai, c'est que toutes vos descriptions, finalement, ont participé à montrer les dégâts que produisait finalement la frontière. Vous n'avez cessé de dire que finalement, c'était ces différences de part et d'autre de la frontière qui posaient à chaque fois problème. Et en même temps, il y avait un discours qui disait. La frontière, c'est une opportunité, économique pour les gens qui habitent d'un côté de la frontière et qui vont aller travailler dans l'autre, pour ceux qui travaillent d'un côté de la frontière et qui vont habiter dans l'autre. Donc il y a cette double dimension, à la fois d'une frontière qui est présentée comme un handicap et de l'autre, une frontière qui est présentée comme une opportunité. La question qui était posée par l'atelier aujourd'hui, c'était les mobilités transfrontalières de points, un catalyseur des territoires locaux en transition. Donc là, il y a cette question de la mobilité qui se rajoute à ce que je viens de dire sur le rôle de la frontière et le sens qu'elle prenait, en tout cas dans ce qui était exposé. Et la dernière intervention d'Alexandre Moine disait plus les mobilités seront fluides, finalement, et ça a été repris aussi par plusieurs acteurs lors des présentations, plus les mobilités seront fluides et plus on résoudra les problèmes qui nous sont posés. Et en fait, ces mobilités, on pourrait, et c'est en ça que j'ai l'impression d'être un peu iconoclaste, on pourrait aussi considérer que ces mobilités renforcent les hiérarchies. Ce qui caractérise ce territoire, comme tous les territoires transfrontaliers, c'est justement la hiérarchie entre ces territoires. Ce n'est pas simplement des différences, mais c'est des hiérarchies en termes de revenus potentiels, par exemple, en termes de salaire, etc. On voit bien qu'il y a un territoire qui est valorisant pour les individus, en tout cas pour leur porte-monnaie, dans un sens ou dans l'autre, mais on n'est pas dans des simples différences, mais on est dans des hiérarchies. Et qui dit hiérarchie dit inégalité. Inégalité entre les individus, ça a été souligné, entre ceux qui restent travailler sur le pays, qui subissent finalement une inégalité de la part de ce que produisent les mobilités transfrontalières sur les territoires, mais aussi inégalité entre les territoires, on l'a souvent souligné, sur les différences, par exemple, entre les capacités de financement de la Suisse par rapport à la France, la capacité d'autonomie des cantons par rapport au territoire français, etc., etc. Et donc, là, dans ce contexte-là, j'ai l'impression que les mobilités, elles exacerbent ces hiérarchies et que finalement, elles renforcent les problèmes qui nous sont posés. Et donc, je me suis dit, mais à ce moment-là, on pourrait considérer que plutôt que de partir de l'a priori que les mobilités transfrontalières sont des phénomènes positifs, on pourrait partir d'un autre a priori en se disant finalement, les mobilités transfrontalières peuvent poser problème parce qu'elles, finalement, elles déstabilisent nos territoires. Elles peuvent poser problème et donc, à ce moment-là, le travail commun qu'on aurait à faire serait moins un travail institutionnel de valorisation des mobilités et des moyens de mobilité, mais plutôt de considérer donc ces mobilités comme potentiellement déstabilisantes pour ces territoires. Et donc, finalement, ce que nous aurions inventé, c'est une résilience de ces territoires face à cet outil déstabilisateur que représentent les mobilités. Alors, je vois bien que, finalement, caractériser les mobilités par leurs effets négatifs est un peu contre-intuitif par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui. Mais il me semble que si on les considère comme ça, ça nous permet d'envisager l'action publique peut-être d'une autre manière. C'est-à-dire que si on envisage l'action publique, non pas en termes de projet institutionnel, mais en termes d'action visant à produire de la résilience sur ces territoires face aux phénomènes déstabilisateurs qui s'y produisent, peut-être que le projet de la gare de Del tel qu'il a été décrit, peut-être repose un petit peu le problème de manière différente. C'est-à-dire que si on considère que finalement l'action publique doit mobiliser les forces, pas seulement institutionnelles, pas seulement liées en termes de projets interreg, pas seulement en termes de dispositifs locaux, etc., etc., mais finalement en essayant de mobiliser les acteurs à quelque niveau que ce soit. Et donc, par exemple, à un moment donné, au détour d'une phrase, les grèves dans les transports ont été évoquées. On peut aussi imaginer qu'une grève dans les transports, ce sont des gens qui se mobilisent, situés dans un territoire, et peut-être qu'on peut aussi considérer ça comme une opportunité et non pas, au contraire, comme un handicap ou un fléau ou je ne sais pas quoi. L'idée, là, ce que je veux dire ici, c'est que si on considère, disons, les actions en termes de comme, ayant comme objectif de produire de la résilience, à ce moment-là, peut-être qu'on se pose les questions de mobilisateurs locaux, peut-être de manière un petit peu différente que celle dont on se les pose habituellement quand on considère que finalement la frontière est une chose positive, les mobilités transfrontalières sont des choses positives, etc. etc. Merci.
Moi, je ne suis pas sûr que je vais répondre. J'ai essayé. Je ne suis pas sûr pour ma part que ce soit les mobilités qui finalement créent le problème aujourd'hui. Parce que ce n'est pas elles qui sont le moteur de cette problématique, c'est le changement institutionnel qui a été imposé à l'économie qui crée la modification. On a d'abord une rupture économique qui est liée à une crise, mais en fait, moi j'ai rêvé à un moment donné, je vais essayer de formuler la réponse de cette manière, j'ai rêvé à un moment donné que pour supprimer les mobilités et renforcer cet espace, parce que fondamentalement il y a des gens qui ont envie de vivre sur ces territoires, c'est rien d'autre, hein. Donc comment est-ce qu'on fait pour qu'ils puissent y rester? C'est de leur donner les conditions d'accès au travail. Et le problème, c'est que le Swissmade, à un moment donné, a pris un tel poids qu'il a concentré la production en un endroit et il a pompé des masses d'une population et a déstructuré ce tissu industriel. Je m'étais dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'imaginer au niveau de l'Europe, parce que ce n'est pas qu'un problème de frontières liées à l'Europe ou à d'autres structures, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer quelque chose de totalement schizophrénique, peut-être, mais qui est une zone franche? C'est-à-dire dans un espace, c'est un peu l'idée que vous évoquiez par un autre aspect, c'est-à-dire qu'on assujettisse un espace à la règle la plus simple ou à la règle la plus profitable pour ce territoire-là. On l'a fait pour, je crois, le truc de Cassis, non? C'est-à-dire, si on accrédite un produit dans un pays... le Cassis de Dijon, si on accrédite un pays dans un pays un produit au niveau de l'Union européenne, ben nous on le reprend tout simplement et on n'assujettit pas à des règles supplémentaires. Alors, est-ce que cette idée est absurde? Oui, elle l'est évidemment, puisqu'elle nie la notion de frontière. Quelque part, elle dit que la frontière, c'est plus une ligne. Elle dit que la frontière, c'est un espace qui devient un espace traité selon des règles différentes. Alors, quelles sont ces règles? C'est encore à discuter. Moi, je crois quand même que le transfrontalier a du sens, puisque il est fondé. Enfin, la frontière a du sens puisque c'est un critère discriminant. À un moment donné, on a besoin de critères discriminants. Il ne faut pas les éluder. Maintenant, est-ce que la pertinence de la ligne en tant qu'objet territorial a encore du sens? C'est une autre question, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, si le système était fondé sur une coupure, le territoire avant la crise horlogère, pour ne parler que de cette industrie-là, on peut parler probablement de l'effondrement industriel dans la région du nord de la France. Luxembourg, Belgique, je veux dire, la frontière, avant la crise, la frontière est une coupure, il n'y a pas de connexion, on l'a démontré par d'autres biais, il y a très très peu de connexions qui se passent entre les territoires. C'est aujourd'hui, parce que le mécanisme économique, contrairement à ce que j'ai entendu à certains moments, il me paraît tellement fort que d'une manière ou d'une autre, il faut qu'ils vivent et ils s'inventent des solutions. La mobilité devient une possibilité, finalement, de faire vivre ces systèmes économiques. Alors comment est-ce qu'on fait pour éviter que la mobilité soit le facteur résultant de ce système? Comment est-ce qu'on fait pour que la règle de production soit modifiée? J'en sais rien, mais rêvons un peu.
En sachant que si on parle de zone franche, et je voudrais revenir un tout petit instant là-dessus, c'est que une zone franche, c'est donc une fiscalité aménagée pour les entreprises. En fait, on déplace virtuellement la frontière. Donc, je ne sais pas si la solution à terme est viable. Et puis, la deuxième chose, c'est quand on va défendre ce concept, on regarde les chiffres et quand on dit que dans le Val-de-Morteau, il y a moins de 5% de chômeurs. Les décideurs plus haut, ils nous disent bah, écoutez, quand en France on sera tous à 5%, on regardera peut-être votre problème. Donc on se heurte à ce genre de raisonnement.
Oui, bonjour, Patrick Noblet, je suis également membre de la FNOT comme Patrick Réal. Hier à Pontarlier, il y avait une réunion de concertation sur l'aménagement de la route nationale 57 au sud de Pontarlier. En gros, entre La Cluse et Pontarlier, c'est un aménagement sur quelques kilomètres pour une dizaine de millions d'euros. C'est pas négligeable, mais en tout cas, le débat parce qu'on était qu'au stade de la concertation, portait sur l'aménagement lui-même, hein, et les différentes variantes. Et si on a, la FNUT n'avait pas été là, on n'aurait peut-être pas abordé effectivement les moyens autres que le transport routier. Et on nous a opposé, alors quand on a parlé de transport ferroviaire ou de covoiturage, mais en tout cas pour le ferroviaire, le fait que les origines des destinations étaient diffuses, c'est ce que vous avez abordé d'ailleurs tout à l'heure, et que dans ce cas-là, effectivement, il n'y avait pas une pertinence à augmenter les fréquences, enfin la fréquence squelettique abordée par Patrick Réal. Alors, moi, je ne doute pas qu'il n'y ait pas de coopération entre le secteur de Pontarlier et la Suisse, ça existe. Je prends qu'un exemple, c'est la route de l'absinthe, ça n'a rien à voir avec la mobilité d'une manière globale, bien que ce soit un chemin intéressant à parcourir. Ma question, c'était plutôt par rapport à l'existence de... Moi, j'appelle ça l'AUD, vous appelez ça, je crois, l'Aude, je ne sais plus. Est-ce qu'il ne faudrait pas, à ce niveau, au niveau du secteur de Pontarlier, une structure transfrontalière équivalente à l'AUD pour avoir un levier supplémentaire vis-à-vis des échelons supérieurs, c'est-à-dire au moins la région qui est autorité organisatrice de la mobilité, et pour pouvoir déclencher... Parce que là, il ne s'agit pas d'infrastructure. L'infrastructure, elle existe, c'est un problème d'exploitation. Et ça coûte un petit peu moins cher quand même, au départ en tout cas. Donc, est-ce que cet échelon de coopération transfrontalière tel que l'AUD est nécessaire pour développer des coopérations transfrontalières en matière de mobilité?
Cet échelon-là, c'est un échelon dit de lobbying. C'est-à-dire qu'il faut qu'on anticipe les problèmes à venir. Mais on a ce seul moyen-là. On n'a pas de fiscalité propre, on n'a pas de budget, on n'a pas de... Donc c'est des acteurs de part et d'autre de la frontière qui se rendent compte que le problème qu'ils ont, ben, il est commun et qui font pression donc, sur leurs autorités supérieures. Donc ça ne peut être que du lobbying. Mais pourquoi pas sur Pontarlier ? L'handicap de Pontarlier, c'est que de l'autre côté de la frontière, on a un habitat plus que rural. Il faut descendre du côté de Lausanne pour retrouver une population équivalente, enfin à peu près équivalente. L'avantage qu'on a, nous, à Morteau, c'est que vous passez la frontière et vous avez tout de suite une agglomération urbaine conséquente avec 50 000 personnes. Donc c'est un petit peu la différence. Mais le groupement local, c'est du lobbying principalement. Je ne dis pas que c'est inutile, au contraire. Nous, on a pu sauvegarder la ligne des horlogers pratiquement parce qu'on a on a voulu mettre en place cette navettisation et en faisant pression donc, à la région, etc. etc. donc, on a pu déplacer donc, contrats de plan État-région sur la ligne des horlogers, mais parce qu'on a montré qu'on existait, qu'il y avait un vrai besoin. Maintenant, on n'a pas obtenu ce qu'on voulait sur le fond, mais c'est un début.
Oui, peut-être un petit mot sur la logique du GLCT. Chaque territoire, en fait, est à peu près libre de se structurer. Sur Pontarlier, il y a une structure de coopération qui existe, qui est plus informelle, qui s'appelle l'Hermont d'Orchasson, en fait, qui est avec un secrétariat partagé entre Yverdon et Pontarlier, et puis donc un certain nombre de réunions et de thématiques qui se tiennent régulièrement. C'est une volonté des élus aussi, c'est une volonté en fait des structures d'aller vers quelque chose. Jusqu'à présent, on n'a pas senti du côté de Pontarlier la volonté de passer le cap, de se structurer sous une forme aussi organisée, et justement aussi organisée, identifiée, aussi structurée qu'un GLCT. Mais il y a certainement d'autres moyens. La vraie question, elle est là, c'est la question du lobbying et comment un territoire finalement s'organise pour être entendu et se faire représenter. Je pense que la notion de GLCT est extrêmement utile. C'est pas forcément la seule voit encore une fois, tout dépend aussi justement de la capacité de lobbying des élus en eux-mêmes et puis comment ils peuvent, vis-à-vis de leur territoire, comment ils peuvent structurer quelque part un vrai objet de travail, parce que c'est ça aussi. Et là, pour le coup, encore une fois, je rejoins ce qui vient d'être dit, on est sur un schéma de territoire qui est quand même très très différent, à commencer par le fait que, bon, il y a la dispersion d'habitat, mais déjà simplement Pontarlier est vraiment face sur ce territoire-là, au canton de Neuchâtel d'un côté, au canton de Vaud de l'autre, donc ça suppose une lourdeur institutionnelle pour mettre tout le monde autour de la table qui peut être quand même très complexe, déjà pour monter le GLCT de l'AUD, ça n'a pas été forcément extrêmement simple, donc voilà, peut-être que certaines fois les élus reculent aussi devant ce type d'outils parce que c'est très lourd à mettre en place. Finalement, s'il n'y a pas les moyens derrière... Ce
que j'ai cité tout à l'heure ne marche pas, ben c'est à cause de ça. Je voudrais juste donner un petit exemple. Avant les années 2000, entre Morteau et La Chaux-de-Fonds, c'était un aller-retour. qui s'adressait aux travailleurs frontaliers. On est passé à deux. La fréquentation, alors, avec un aller-retour, la fréquentation était du même ordre, 60 à 80 personnes. On est passé à deux. On a à ce moment-là doublé la fréquentation. Et quand on est passé à trois, on est passé à ce moment-là de à peu près 120 personnes à environ 600, avec une progression qui aurait continué à évoluer si on ne s'était pas heurté au problème de capacité que j'évoquais tout à l'heure. C'est tout. Il y a des effets de seuil. C'est pas, comme je disais tout à l'heure, c'est pas possible avec un seul aller-retour de répondre aux besoins de l'ensemble des catégories de travailleurs. Donc voilà, c'est tout. Les potentiels ne sont pas inférieurs. L'importance de Pontarlier par rapport à Morteau n'est pas discutable. Donc, faisons l'expérience de mettre un deuxième aller-retour comme c'était prévu. La SNCF, à un moment, avait dit qu'elle était capable de le faire à coût constant. Et puis même trois allers-retours, et on va avoir des fréquentations du même ordre que celles qu'on a sur Morteau, et même bien supérieures, parce que là, on n'aura pas le handicap de la capacité du matériel.
Est-ce qu'il y a encore des questions? Sinon, peut-être on...
Alors, s'il n'y a pas de questions, effectivement, on va peut-être conclure. Moi, j'aurais peut-être une remarque ou une question, mais vraiment, à la suite de vous avoir écouté, je trouve que vraiment cet après-midi a permis d'aller, c'était le but de cette table ronde, de s'ancrer dans un territoire, d'essayer de comprendre à la fois sa diversité, les solutions, les pistes qui étaient cherchées, et on a vu de manière, sur des points très locaux, très ciblés, en montrant que les situations étaient complexes et multiples. Et je m'interroge en fait parce que cet après-midi, en fait, vous nous avez peu parlé de transition. Alors, ce n'est pas du tout un reproche, mais finalement, le mot n'a pas été employé, me semble, ou très peu. Donc, c'est intéressant, c'est pour moi, ça m'interroge. Est-ce que vous diriez que c'est un mot qui ne fait pas résonance avec effectivement les différentes expériences et leur complexité que vous rencontrez sur différents terrains, mais sur un même territoire, autour de ces mobilités transfrontalières. Donc, est-ce qu'on ne voit pas effectivement deux passages d'un état vers un autre sur ces questions de mobilité, et qu'effectivement, ça fait un peu résonance avec ce que Jérôme disait, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut envisager, entre guillemets, renverser le regard sur ces difficultés, ces blocages présents? En quoi ça pourrait être peut-être une force ou un atout, quelque chose sur lequel on pourrait construire différemment. Voilà, donc c'est vraiment une question très ouverte. Peut-être que certains ont une réflexion par rapport à ça.
C'est sans doute un peu périlleux de répondre à ce genre de questions comme ça à chaud. Ce que j'aurais tendance à dire, je l'ai entendu plusieurs fois dans les interventions, il y a plusieurs éléments identitaires de l'arc jurassien, il y a la géographie, il y a un passé commun, une langue commune, enfin, on connaît un peu ces éléments-là. Il y a quand même aussi la question de l'appareil productif, du poids de l'économie. Donc, c'est, je pense, le modèle productif, tant qu'il est dominant, et il changera ou il ne changera pas. La transition, on peut en parler, c'est un autre débat. Mais tant que le modèle économique restera un modèle dominant sur le territoire, restera un modèle industriel avec des sites industriels dont, on l'a dit, les décideurs ne sont pas forcément sur le territoire. Mais en tout cas, il y a quand même des unités de production relativement denses et donc des déplacements vers ces unités de production. La question des mobilités, sauf à casser le modèle productif et à décider qu'on arrête de produire de l'horlogerie ou de la richesse sur le territoire, elle sera forcément associée à des questions de mobilité parce que la géographie physique et humaine fait que les usines ne sont pas du même côté aujourd'hui que les populations. Ça a été abordé, il y a des raisons à ça. Donc je pense que la question d'inverser le regard sur la question des mobilités, c'est intéressant. Mais je pense qu'il y a juste un paramètre qu'il faut prendre en compte. Moi, qui me semble important, c'est les questions d'effet de seuil. C'est-à-dire qu'on est passé d'une situation, avant les accords bilatéraux des années 2000, pour faire simple, on avait à peu près 10 000 frontaliers, dont la plupart étaient des frontaliers qu'on peut qualifier d'historiques, c'est-à-dire des gens dont les parents ou les grands-parents étaient frontaliers. Et puis peut-être qu'il y avait pour certains, il y a eu une époque des Suisses qui venaient travailler en France. Donc il y avait une tradition, mais à relativement petite échelle. On est passé, on a triplé à peu près le nombre de frontaliers. Donc on a intensifié la notion de mobilité. Et la transition, et les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, elles sont fortement liées à ça aussi. C'est-à-dire que la transition vers ce modèle économique où les usines se sont implantées près de la frontière, on dit la richesse, enfin le besoin, l'input productif dont on a besoin, c'est-à-dire la main-d'œuvre n'est pas chez nous, donc on se met à côté de l'endroit où elle se trouve, c'est-à-dire près des zones frontières. C'est le cas dans le Jura. C'est vrai que la Chaux-de-Fonds et le Loc, historiquement, s'est implanté depuis longtemps. Ils ne se sont pas implantés là pour. Mais dans d'autres territoires, il y a vraiment une volonté de se rapprocher de la frontière pour aller capter. On génère automatiquement par ces décisions-là, qui sont de la sphère privée, qui sont du domaine productif, qui ne sont pas de celui des décideurs publics, on génère effectivement des effets, alors je ne sais pas si on va appeler ça des dommages collatéraux, mais enfin des effets collatéraux en tout cas, qui génèrent forcément de la mobilité, ou alors changeons de modèle productif, allons vers des modèles où on travaillera dans des Fab Labs chez soi, ou dans des petites unités de production dans les villes ou dans les villages, ou dans des fermes comme on faisait avant à l'origine de l'horlogerie. Peut-être qu'il y aura moins de mobilité, mais tant que le modèle productif sera basé encore sur des unités de production importantes, qui concentrent de la main d'œuvre, je pense qu'on aura ce genre de phénomène à gérer. Voilà.
Je vous remercie, parce qu'effectivement, je pense que ça permet aussi aux étudiants de voir, en termes d'imaginaires sociaux, effectivement, on est, vous l'avez très bien dit, dans un regard sur l'économie qui est relativement dans une continuité tout à fait, et qui, effectivement, vous avez tout à fait raison, nous permet de comprendre aussi comment on perçoit les pratiques et leur indétermination parfois. Alexandre, est-ce qu'il y a d'autres questions?
S'il n'y a pas de questions, je ne vais sûrement pas je ne vais surtout pas conclure. Je ne vais surtout pas conclure, c'est évident. Oh, pardon.
Merci. On a abordé des problèmes. Votre questionnement était vraiment intéressant, très intéressant. Le vôtre aussi, enfin, tous les questionnements étaient intéressants. Qui m'a adressé pour l'organisation de cette journée. Le temps est très difficile. Mais il est difficile pour tout le monde. Hein. Mais des régions telles que la nôtre est très difficile. Coincé entre deux régions très fortes, la Regio Basilensis, je suis désolé de prendre deux régions suisses, mais enfin, on peut prendre un bout d'Allemagne et un bout de France sur l'Est. Cet arc jurassien, est-ce qu'il existe? Ça, c'est difficile. Il a existé. Il a une histoire, l'arc jurassien. Alors, je réponds un peu à votre question. C'est retrouver son histoire qui est importante. Et ça, M. Brunet me pardonnera, mais ce n'est pas via l'institutionnel. L'institutionnel, il n'est que le produit de quelque chose. Donc, il faut revivifier, retisser son tissu. Ça, c'est une œuvre difficile, je me rends compte. Très, très difficile. Et tant qu'on considérera la main-d'œuvre qui vient avec le problème des frontaliers, parce que c'est aussi un problème, hein, c'est un vrai problème, comme une variable d'ajustement, on n'est pas prêt de gagner la partie. Donc, c'est au mouvement citoyen, modestement. On a parlé de petits projets, j'ai bien aimé, parce qu'on en a profité, on en profite, nous, au Forum transfrontalier. Je crois que c'est par la base, par des mouvements de citoyens, l'exemple de Dell est significatif. C'est ça qui peut retisser du social et de l'histoire, reprendre son histoire. Et alors d'inviter l'institutionnel, c'est toujours le grand méchant, le grand incapable, c'est un produit, l'institutionnel. Ben, l'institutionnel, il ne travaille pas dans le vide. Il faut lui redonner un peu de pouvoir. Mais j'ai beaucoup employé deux mots, il faut et on doit. Ce sont les deux mots de la défaite.
Je ne conclus pas donc. Juste trois points par rapport à tout ce qui a été dit. Ce ne sera absolument pas une synthèse, je n'en ai pas envie, mais revenir sur l'idée, c'est votre question finalement qui guide ma conclusion quelque part, pour m'inscrire pas tout à fait en faux, mais un petit peu quand même. Qu'est-ce qui est au départ? Vous avez eu l'impression qu'on dépeignait évidemment des dégâts, beaucoup d'effets négatifs, mais en fait, Ça, c'est par l'étude objective d'un certain nombre d'indicateurs, mais si vous prenez la température auprès de la population, elle va très bien, elle se sent très bien. On est sur un territoire qui se sent gagnant. C'est un territoire qui est riche. Nous, on considère qu'il y a des travers très, très importants, des risques de segmentation sociale de part et d'autre, une dévitalisation des perdants-perdants. Ou le système des entreprises uniquement positionnées en Suisse avec des capitaux qui s'évaporent, qui ne profitent pas au local, et à l'inverse, des services hyper développés en France, mais qui dévitalisent le côté suisse. Alors là où on gagne côté suisse en entreprise, on perd en service, et là où on gagne en service côté français, on perd en entreprise. Donc ce qui est vécu positivement, nous on le voit comme quelque chose qui est perdant-perdant. Ça c'est le deuxième point. Et donc vous voyez que... comment est-ce qu'on va convaincre des citoyens, ceux qui peuvent agir localement, ceux qui peuvent transformer pour faire évoluer le modèle? Comment est-ce qu'on peut les convaincre quand eux, ils sont convaincus qu'il ne faut pas bouger? Les acteurs politiques ont le sentiment que ça ne fonctionne pas parce qu'eux, ils voient les points négatifs, mais ils ont beaucoup de mal à finalement développer des projets qui emporte l'adhésion de la population, d'autant qu'il n'y a pas de citoyenneté transfrontalière. Donc systématiquement, on agit quand on est... il y a une faible citoyenneté transfrontalière. Donc finalement, on campe chacun sur ses positions en se disant « c'est très bien, ne touchons à rien, la frontière source de différentiel et de profit, c'est très bien ». Or, nous, on pense que c'est perdant-perdant. Troisième point, et là je conclue vraiment, je suis d'accord avec vous par rapport à la résilience, mais elle ne doit pas se faire de part et d'autre de la frontière. Ce que révèlent ces questions de mobilité, c'est qu'il faut faire ensemble. Moi, je suis convaincu que l'avenir, il n'est pas contre le voisin, mais il est avec. Et vous avez tout à fait raison, ça passe par la mobilisation des acteurs locaux. Je viens de vous dire qu'en fait, ils ne sont pas si prêts à être mobilisés. Nous, on a fait une enquête, 73 petites coopérations sur tout l'arc jurassien. C'est fantastique, ça entraîne des milliers de gens. Mais par rapport à ce que représente l'arc jurassien franco-suisse en nombre d'habitants et au potentiel de relations, parce que justement, il y a une certaine richesse qui fait que on peut sortir de l'isolement facilement, on peut se déplacer, on peut aller vers les autres, puisque ça a un coût. Et donc ça, c'est pas rédhibitoire. C'est très peu, finalement, 73. Nous, on s'est félicité d'en trouver 73, mais c'est finalement très peu. Et je pense que la résilience, elle doit se faire à l'échelle transfrontalière. Elle doit se faire à l'échelle de ceux qui vont se reconnaître comme étant gagnants d'un côté, gagnants de l'autre. Et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour aller plus loin dans la perspective qu'en même temps on se dit bah oui, finalement c'est perdant-perdant. On est en train de scier la branche sur laquelle on est. Comment est-ce qu'on prend en main cela pour que le gagnant-gagnant il soit avéré, véritable? Et justement reconnaître ce qui fait lien, par exemple la culture. Je pense que la partie suisse Chaudefonds-le-Locle par exemple, avec une offre culturelle qui est évidemment à la hauteur de 50 000 habitants, que ne peut concurrencer la France, eh bien c'est là qu'il faut utiliser, par exemple, les mobilités, les TC, pour aller facilement vers du cadencement, vers de la consommation, cette fois culturelle, et on n'est plus dans cette concurrence de services marchands privés qui, évidemment, sont au moins 10 ans, etc., etc., et qui n'apportent finalement pas tant de richesse que ça. Je pense que par le biais de la culture, par le biais de cette citoyenneté à travailler au travers de la circulation, c'est vrai que je pense que la mobilité, malgré tout, même si elle exacerbe, si elle est ce qui apparaît du fait des différentiels, il y a des différentiels et du coup on est mobile pour aller capter les aménités, même si ça révèle cela, ça peut être aussi porteur d'aller vers le voisin et d'aller vers des liens qui passent, je pense, par essentiellement cette économie présentielle résidentielle, tourisme, culture, services, mais services comme ceux qui ont été décrits, petits projets au travers d'une intégration très citoyenne. Voilà. Ça, c'est ce que je pense, c'est ce que je rêve, hein, quelque part, avec une mobilité TC, bien sûr, transport en commun. Et quand je regarde sur la totalité de l'après-midi, mais on a incroyablement tous les ingrédients. On a des lignes de chemin de fer, ça a été dit. On a les lignes de chemin de fer dans une zone de moyenne montagne d'où elles ont quasiment toutes disparu en France. Or, on a quand même encore ces lignes. Et on a finalement la même langue de part et d'autre. On a des services qui sont, en fin de compte, complémentaires, qui sont encore présents. Je rappelle que des zones, quand même, de moyenne montagne, comme cela, elles sont la plupart du temps totalement dévitalisées. Si on prend juste la partie française, sans la Suisse voisine, l'arc jurassien serait un arc jurassien à 30 habitants au kilomètre carré, avec un taux de chômage de 10-12%. Voilà, donc on est sur deux Finistères qui sont complètement... Et je pense qu'il faut absolument... Enfin, cette économie résidentielle, elle ne peut vivre que sur la base d'une mobilité douce, transport en commun, développée. Beaucoup plus développée qu'elle n'est maintenant. La question, et juste je termine, c'est d'aller au-delà du lobbying. Hein. Bon, pour moi, c'est évident que... un GLCT ou des GLCT, ils doivent avoir des moyens. Le lobbying ne suffit pas. Enfin, on voit, hein, le résultat, c'est qu'on a des projets de mobilité potentielle entre des villes entre 70 000 personnes, 70 000 personnes, et puis ça n'enclenche pas parce que les pouvoirs de décision ne sont pas à cet endroit-là, alors qu'on pourrait, côté suisse, avoir des pouvoirs de décision très proches au niveau des cantons. Côté français, ça n'existe pas. Donc, malgré tout, cette résilience transfrontalière, il faut qu'elle soit accompagnée de financement et derrière de structures qui sont capables de structurer le financement à l'échelon local. Pour moi, c'est du GLCT que cela, sur les GLCT que ça doit reposer, mais avec des GLCT qui ne soient pas seulement des lobbying, mais qui aient des moyens financiers pour lancer leurs propres actions. Et à partir de là, je pense qu'on peut avoir des échelons politiques qui suivent. Mais je rêve. Si les uns et les autres veulent ajouter quelque chose, c'est ouvert, bien entendu. Et sinon, on peut clore.
Ce qui est prévu, c'est éventuellement une pause café. Donc, on peut effectivement terminer cette journée. Merci à tous d'être venus. Merci aux intervenants de cet après-midi, mais aussi de la matinée. Et puis, un prochain atelier.